Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis, vous pouvez continuer à nous appeler au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous accueillons maintenant Frédéric au 39-21, bonsoir Frédéric.
Bonsoir Olivier, comment allez-vous depuis notre premier entretien ?
Je connais cette voix.
Bonsoir. Vous m'avez donc reconnu.
Je reconnais votre timbre de voix, après je ne vous situe pas vraiment.
Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. Nous nous étions entretenus au sujet d'un test ADN que j'avais passé sur la plateforme israélienne MyHeritage.
Oui, ça y est.
Et j'avais découvert à cette occasion que j'avais
des origines
chinois.
Exactement, ça y est, je vous remets.
Effectivement, alors en tant que métis franco-africain, j'étais donc intéressé pour tester mes diverses origines, pour expliquer mon apparence, et à cette occasion, c'était en octobre 2019, j'avais donc découvert ces 3,3%, ce 30e en fait de gène extrême-oriental,
oui.
Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas si mon ancêtre était originaire soit du Vietnam, soit de la Chine. Je manquais d'informations et je m'étais lancé dans une quête éperdue des origines. J'avais mené en effet une enquête, comme dans un roman policier, certainement passionnant. Et il se trouve que ces derniers jours, le 3 janvier de cette année 2021, j'ai enfin pu identifier ce vénérable trisaïeul.
Ah bon ?
Oui.
Mais racontez-moi ça.
Alors, je parcourais, comme à mon habitude, les archives numérisées de l'ANOM. L'ANOM, c'est-à-dire les archives nationales d'outre-mer, qui sont difficiles à consulter parce qu'en fait, tout est écrit avec la calligraphie de la Belle Époque.
Oui.
Et vous ne pouvez pas faire de recherche avec un mot-clé comme sur Google ou les sites de les moteurs de recherche habituels. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas taper tel nom et il vous donne l'information. Non, vous devez éplucher les documents à l'ancienne, parcourir les pages, et c'est un travail de fourmi parce que il y avait énormément de renseignements, concernant des avis de décès, des avis de mariage, des avis de naissance. Vous devez étudier toutes les registres. Ça s'est allé de 1844 à 1917. Et à l'époque, souvenez-vous, je vous disais ne pas savoir comment il s'appelait, ne pas connaître ses dates de naissance et de mort.
Oui, je me souviens.
Et il se trouve que le 3 janvier dernier, en consultant les avis de décès survenus à Mayotte, de l'année 1917, je suis tombé donc sur l'ancêtre. Je sais comment il s'appelle. Il est décédé à l'hôpital de Dzaoudzi le 14 décembre 1917 à l'âge de 48 ans environ.
Oui.
Donc il serait né en 1869, et ce qui est certain, c'est qu'il est né à Canton, Guangzhou, dans la province du Guangdong, donc en Chine méridionale.
D'accord.
Quand je suis tombé sur cet avis de décès que j'ai décrypté, que j'ai tout de suite compris que c'était lui, et je me suis mis à pleurer.
Ah oui ?
Pleurer, parce que je l'avais enfin retrouvé. Et je me dois également de vous apporter une précision. Lors de ma dernière allocution, je vous avais dit que mon père était réunionnais, souvenez-vous.
Oui, exactement.
Alors, en fait, c'est pas tout à fait exact, mais vous allez comprendre pourquoi. Mon père a effectivement habité à La Réunion de 1991 à 1994. Nous y avons des cousins germains. Mon demi-frère est né là-bas. J'ai une demi-sœur qui y vit également. Donc, à la base, il est né sur l'île de Mayotte, qui est actuellement le 101e département français, situé dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et le continent africain.
Alors, d'accord.
Mayotte et La Réunion, en fait, ce sont deux îles différentes, parce que autant La Réunion, c'est, comme je vous disais, l'endroit le plus métissé du monde devant le Brésil. Vous avez absolument toutes les races, toutes les origines, c'est multiculturel avant l'heure, hein. Tandis que Mayotte est essentiellement peuplée d'Africains du continent, de la tribu des Bantous, originaires soit du Kenya ou du Mozambique.
Enfin, qui sont très black, pour le coup.
Alors, très black, très noir de peau, c'est souvenez-vous, le cas de mon père. Mayotte, donc une île musulmane à 95%, nous, il se trouve qu'on fait partie donc des 5% de catholiques. Mon père est donc né... là-bas, donc, à l'hôpital de Dzaoudzi, donc, qui est l'ancien chef-lieu de l'île, à Petite Terre, en 1949. Et j'ai donc découvert ce trisaïeul, c'est donc l'arrière-grand-père de mon père, qui est décédé dans le même hôpital où naîtront mon grand-père, mon père et ma demi-sœur.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est découverte absolument... sidérante, chargée d'une émotion absolument intense, parce que il faut savoir qu'en 1917, pendant les événements de la Grande Guerre, Mayotte, il n'y avait que un peu plus de 11 000 habitants, j'ai vérifié. Donc il y en a 260 000 de nos jours, hein, la population a considérablement augmenté. Il faut bien savoir qu'à l'époque, un Chinois à Mayotte, c'était un ovni. Il y avait des colons, bien sûr, l'administration coloniale, hein, les Français, les Mzungu, comme on dit là-bas. Mais un Chinois, moi je pense que... Alors, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il est arrivé à Mayotte soit par hasard ou par dépit. Parce qu'à l'époque, c'était la campagne de Madagascar. Le futur général Gallieni avait mené la campagne donc pour conquérir l'île Rouge, hein, Madagascar, qui est plus grande que la France. Il y a eu des combats extrêmement violents avant la pacification. Et je pense que cet ancêtre, peut-être pour l'éloigner des combats, il s'est vu proposer de gagner l'archipel des Comores.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est par aussi les voies ferrées, on ne construisait pas le train à l'époque?
Oui. Alors, justement, je me suis renseigné. Les travaux de construction, les chantiers de construction de routes et de voies ferrées n'ont commencé qu'après la pacification de Madagascar, En 1896, il existe énormément de photos de ces chantiers en noir et blanc. Et la première ligne de chemin de fer a débuté apparemment vers 1901 au nord de Madagascar, dans la ville de Diego Suarez, qui se trouve donc au nord de l'île et qui est toute proche de Mayotte.
D'accord.
Alors, évidemment, je n'ai pas tous les renseignements, il existe encore de nombreuses zones d'ombre, mais néanmoins, il est facile d'imaginer le cheminement de mon ancêtre, qui a donc appareillé au départ du port de Canton, hein, à mon avis vers 1895, Canton Guangzhou, qui était un comptoir français à l'époque, à côté de Hong Kong, qui, elle, est une possession britannique, car à cette époque, les Occidentaux s'étaient mis en tête de conquérir la Chine, ce qu'ils ne parvinrent jamais. Tout juste établirent-ils des comptoirs dans les principales villes maritimes et donc, dans cette optique, il y a eu des contingents de travailleurs volontaires à qui on a dû faire miroiter monts et merveilles dans les colonies françaises. Et en fait, mon ancêtre, j'imagine le cheminement par bateau, il a dû traverser l'Indonésie, le détroit de Malacca.
Il est venu de très loin, mon cher Frédéric.
Très loin.
Ce que j'aimerais tout de même, c'est que on parle de vous maintenant et de cette réaction d'en avoir pleuré en fait. D'où vous est venue cette émotion? C'est le chemin travers, en tout cas l'origine lointaine comme ça de cet ancêtre qui est venu jusque là et dont vous dépendez, enfin en tout cas dont vous descendez, pardon, ces pleurs là, ça a été un grand moment.
Mettez-vous à ma place, quand vous découvrez de manière inespérée un document attestant de la réalité de cette personne, quand vous découvrez son nom, sa date de naissance, je ne m'attendais même pas à ce qu'il soit décédé dans l'île de mes ancêtres, Mayotte. Je pensais qu'il était peut-être mort dans les chantiers de Madagascar. Madagascar, c'est immense, impossible de faire des recherches, il y a trop de villes différentes. Et en fait, apparemment, il est allé jusqu'à cette île. Et l'émotion dont je vous parlais vient du fait que j'avais en fait quelque peu du tout espoir d'obtenir des renseignements supplémentaires. Je me disais, c'est une époque trop reculée. Et en fait, non seulement il a vécu à Mayotte, mais jusqu'à l'âge de 48 ans, et il a eu le temps de finir grand-père, parce que mon propre grand-père, qui est donc un carton de Chinois, est né en 1915. Et donc, il a eu le temps d'élever sa fille, mon arrière-grand-mère, Joséphine, née en 1897. Et donc, c'est un peu comme un retour aux sources.
C'est génial, c'est génial. Et en fait, vous avez récupéré ce document où, Frédéric? Parce que l'autre jour, je regardais une série en fait, et justement, ça parlait de la descendance comme ça, et on remontait jusqu'à, on descend tous d'hommes qui ont vécu à la préhistoire, il y a des images filmées, c'était de la fiction, et j'ai été pris par cette envie soudaine de connaître moi aussi mes origines, et je me suis dit que j'allais me lancer un peu, remonter le plus loin possible. Ce que vous avez fait, vous, on commence par où, on va où, comment vous faites? Vous êtes adressé à des gens dont c'est le métier, je crois, ou vous avez fait toutes les recherches vous-même?
Alors, dans un premier temps, j'ai consulté les registres de l'ANOM, donc les Archives nationales d'outre-mer, qui à la base se trouvent à Aix-en-Provence, mais je ne me suis pas rendu jusque-là. Je suis allé sur leur site internet. Comme je vous ai expliqué, ils ont tout numérisé, donc les documents des anciennes colonies, que ce soit Mayotte, La Réunion, la Louisiane aussi, l'Indochine, le Congo, etc., la Côte d'Ivoire. Donc vous choisissez la partie du monde qui vous intéresse. Mayotte en l'occurrence, qui est l'île au parfum, une petite île nichée dans le canal du Mozambique, d'où proviennent donc mes ancêtres africains, enfin toute ma descendance africaine. Et j'ai procédé par élimination, parce que je ne connaissais pas ni la date de naissance ni de décès de l'ancêtre. À la base, je recherchais en fait un acte de naissance ou de décès de mon arrière-grand-mère. Je sais qu'elle est née le 19 mars 1897, mais malheureusement, je n'avais rien trouvé de probant. Je sais également que mon grand-père, lui, est né en 1915. Là aussi, malheureusement, je n'ai rien trouvé à ce niveau. Je possédais, cela dit, un acte de naissance spécifique de ce dernier obtenu à Madagascar lors de son mariage en 1945, qui m'a été fourni par de la famille. Mais ce qui m'obsédait dans cette quête des origines, c'était par rapport à cet ancêtre chinois à qui je dois mon apparence, souvenez-vous.
Oui.
Ma blancheur étonnante révélée par l'ADN. L'acide nucléique. Et alors vous m'avez posé la question, par rapport à la recherche. Alors, où chercher? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est sûr que je n'allais pas chercher du côté de Canton. J'étais pas sûr que c'était la Chine du Sud, mais j'avais été en fait aiguillé par une alliée providentielle, une universitaire réunionnaise d'origine chinoise, qui était spécialiste de la diaspora chinoise dans l'océan Indien, que j'ai contacté par téléphone, puis par email, et qui a été passionné par mon histoire, qui a essayé de me dresser des pistes, parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop si cet ancêtre était métissé, parce que je savais que c'était un couple sino-malgache, donc je m'étais dit peut-être qu'il était né à Madagascar et qu'il était métissé des Africains du cru, et cette dame m'a dit non. En fait, il a dû arriver tardivement à la fin du 19e siècle. Il doit être natif de la Chine. Il n'a pas eu le temps de se métisser parce qu'à cette époque, les travailleurs, les engagés volontaires, c'était uniquement des hommes. Hein. Ils n'arrivaient pas avec des familles. C'est arrivé par la suite, mais après la Seconde Guerre mondiale, c'était uniquement des contingents d'hommes du village. Et donc, ce qui fait que quand ils arrivaient sur place, quand ils étaient en manque de compagnie, ils n'avaient pas d'autre choix que de se fricoter aux autochtones, en l'occurrence les Maorais et les Malgaches, pas les colons, parce que les mariages mixtes étaient probablement mal vus, voire interdits à l'époque. Hein. Il y avait quand même une certaine forme de ségrégation raciale. Et en ce qui concerne mon ancêtre, il a dû former un couple intersectionnel avec mon arrière-grand-mère, qu'il me reste également à identifier, et qui était peut-être, je dis bien, employée en tant que religieuse dans un couvent à côté de Zhaozi, un couvent qui n'existe plus, un couvent de Cluny, si j'ai bonne mémoire. Peut-être se sont-ils rencontrés de cette façon. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui prime à mes yeux, c'est donc d'avoir pu cerner le personnage, d'avoir pu cerner les dates, tout correspond. Et ce que révèle l'acte de décès, un petit détail intéressant, c'est sa profession. Alors, apparemment, mon ancêtre, qui s'appelait Sam Sen, le patronyme est, paraît-il, incomplet. Hein, mon allié réunionnais m'a dit non, il avait peut-être un nom supplémentaire, il manque quelque chose. Bon, il se faisait appeler Sam Sen, était pêcheur de trépans. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que les trépans ? J'ai fait une recherche sur Internet. Les trépans, oui, avec un G à la fin. Les trépans, ce sont les concombres de mer. Un mets très raffiné qui est particulièrement prisé des gens partout dans l'océan Indien et aussi en Extrême-Orient.
Oui.
Alors je me suis dit, cet homme était probablement un pêcheur sur la côte méridionale de la Chine. Peut-être un pêcheur au cormoran. Ce sont des hommes qui prenaient des radeaux, qui se mettaient au milieu du fleuve, et avec des oiseaux, ils avaient une technique de pêche bien particulière, que mon ancêtre a peut-être propagée et enseignée aux nombreux pêcheurs autochtones de Mayotte. Donc j'imagine cette séquence assez insolite pour l'époque, ce petit émigrant chinois, apprenant donc aux Maorais les techniques de pêche leur racontant peut-être à la veillée, lors des grillades de poissons, les légendes de son pays, le récit de sa traversée, ses ambitions. Rien que de l'imaginer,
c'est beaucoup oui. D'émotions. Et je suppose que c'est ça aussi qui est très nourrissant. C'est une fois qu'on tombe sur des détails comme cela, c'est d'imaginer, de se rapprocher de l'histoire, de plonger dans l'histoire et redonner la vie quelque part à travers votre imagination à ses ancêtres. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, hein, mon cher Frédéric. On le sens, c'est quelque chose qui vous tient complètement, ça. Hein.
Souvenez-vous, cette découverte était totalement inattendue. C'est à l'âge de 42 ans que j'ai découvert que j'avais une origine chinoise que je ne soupçonnais pas, ce alors que je suis divorcé d'une Chinoise, j'ai connu des Chinoises avant elle. Donc ça a atténué ma peine, mon chagrin, et ça m'a redonné un souffle, savoir que je descends des mandarins. Ça n'arrive pas à tout le monde. Je descends à la fois des gallo-romains, bon ça comme nous tous, des vikings de par mon père africain, parce que je vous avais dit qu'il avait du sang scandinave, hein, un arrière-grand-père breton, des africains, bon ça tout à fait normal, des maghrébins également, parce que j'ai 5% de nord-africains, bon ça c'est le brassage des populations, mais des cendres de la Chine, C'est comment ne pas y songer. Ça vous transforme l'existence. C'est une révélation qui quand même vous prend aux tripes et qui vous fait réfléchir.
Oui, complètement.
Nuits, je n'endormais pas. Mettez-vous à ma place.
Non,
je ne m'y attendais pas du tout. Et depuis, savoir en plus que c'est la région de Canton, à côté de Hong Kong et Macao, qui étaient des lieux effectivement des lieux de passage, des points d'arrivée des Occidentaux à l'époque. Écoutez, c'est assez extraordinaire parce que c'est à partir de ce coin du monde que se sont orientées les migrations. À l'époque, on envoyait beaucoup de Chinois à Tahiti, mais également aux Amériques pour la construction du chemin de fer. Olivier ?
Oui, je vous écoute.
Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez Lucky Luke. Un petit détail dans Lucky Luke, on voit dans la bande dessinée un sympathique blanchisseur chinois.
Oui, oui, oui.
Je ne sais pas si vous le
suivez. Si, je remets très bien.
Eh bien, c'est ce...
Je vois très bien.
Voilà, Lucky Luke, ce petit bonhomme était... Ouais. Oui, voilà, avec grand emploi. Ce petit bonhomme, en fait, était contemporain de mon ancêtre. À l'époque, il y avait la Chine avait autorisé à partir des années 1860 des départs de ses ressortissants, donc pour gagner les colonies, pour les constructions de chemins de fer, le développement du riche Occident. Enfin, c'était une aventure. Alors évidemment, au début, on leur a fait croire peut-être que nos rues étaient pavées d'or. Les gens sont partis la fleur au fusil, sans se douter certainement de la terrible aventure qui les attendait, ne serait-ce que la traversée en bateau, et puis peut-être les troubles politiques. Je vous parlais de la campagne de Madagascar. Mon alliée réunionnaise, elle s'appelle Madame Wong, elle se reconnaîtra, je la salue au passage, m'a également appris qu'à cette époque, des gisements aurifères avaient été découverts en Afrique du Sud. Il y a eu une ruée vers l'or en Afrique du Sud, et pas seulement des Afrikaners, c'est-à-dire les Hollandais à l'époque, on venait du monde entier. Et il est probable que de très nombreux Chinois aient également été orientés vers cette destination, mais ne parvenant pas à leur fin, ils se sont peut-être enracinés dans les îles voisines.
De toute façon, cher Frédéric, oui, les Chinois, de toute façon, de tout temps, ont été de grands voyageurs, de grands bâtisseurs aussi, hein, puisqu'ils sont sur les grands chantiers SNCF, enfin du rail, excusez-moi, SNCF, ça va mieux moi. C'est vrai que les Chinois, que ça soit aux États-Unis, sur le continent africain, ils sont et puis pareil dans l'Europe du Nord, hein, ils sont partout. En fait, ils ont été très tôt.
Ça c'est de nos jours. De nos jours,
même avant, de nos jours, oui, bien évidemment, mais même avant, ça a été très tôt un peuple qui a voyagé, et puis une main d'œuvre aussi, hein, pour les chemins de fer partout en Europe, aux États-Unis et puis en Afrique, très tôt, en fait, il y a eu ça. Au-delà
alors,
du commerce.
Pas exactement, Olivier. Ah, je suis obligé de tempérer votre enthousiasme et de redresser le curseur.
Pas exactement, parce que
les migrations chinoises n'ont commencé qu'après l'abolition de l'esclavage en 1848 par Victor Schœlcher.
J'ai pas remonté assez. Je voyais ça plus loin, moi.
Et en fait, pourquoi il y a eu des migrations chinoises par la suite ? Parce qu'il y a eu l'accord de Pékin de 1860 avec les puissances occidentales, Russie comprise, à une époque trouble pour la Chine, qui était à l'époque un immense pays assez misérable, hein, gangréné par des famines, des troubles intérieurs, et l'appétit des puissances occidentales. Des accords ont été trouvés et les Chinois de l'époque étaient convoyés par les Européens. Ce n'est pas la Chine qui a affrété des navires à l'époque pour ensemencer le monde, si j'ose dire. Ce n'était pas du tout la même politique que les Occidentaux, que les Européens, qui eux s'étaient lancés à l'assaut de la planète.
Ouais.
C'était une démarche différente. En revanche, il faut savoir qu'au XVe siècle, vous aviez un amiral, un grand navigateur, Zheng He, excusez-moi de la prononciation,
je vous en prie,
qui lui a sillonné effectivement l'océan Indien, donc jusqu'aux côtes orientales de l'Afrique.
D'accord.
Donc avec des d'immenses pagodes qui étaient beaucoup plus grandes que les caravelles de Christophe Colomb.
Oui.
Et d'après les historiens chinois, ce grand amiral, qui était musulman d'ailleurs, serait allé jusqu'aux Amériques. Il aurait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb en 1421.
Ah oui, dis donc. Ouais. Et oui, il n'est pas resté, mais c'est dans l'histoire chinoise.
Alors, c'est dans l'histoire chinoise, mais en fait, les Chinois n'avaient pas du tout la même philosophie que les Européens, qui, eux, plantaient des drapeaux partout où ils passaient, ils établissaient des colonies, alors que les Chinois, eux, ont procédé différemment. Je vous citais l'exemple des Amériques. Donc, ils auraient découvert l'Amérique par la côte ouest, la côte californienne, en 1421. Ce serait attesté, en fait, par des poteries chinoises qu'on aurait retrouvées dans cette zone, et notamment du côté du Pérou.
D'accord.
Mais je n'avancerai pas sur ce terrain glissant qui remonte à plusieurs siècles, hein, c'est le Moyen-Âge. Moi, je préfère revenir à l'immigration récente, celle à la fin du 19e siècle, qui est beaucoup mieux documentée, car je sais que j'aurai encore des choses à découvrir. Hein. Il y a encore des zones d'ombre absolument passionnantes qui seront un jour élucidées. Mais déjà, pouvoir identifier cet aïeul, pouvoir le situer dans l'espace et dans le temps, je peux imaginer la vie qu'il a menée, qui était peut-être pas celle à laquelle il aspirait, mais toujours est-il que il s'est enraciné.
Et toujours est-il qu'il s'est enraciné et que vous en êtes le descendant, mon cher Frédéric.
Oui, je pense beaucoup à lui.
C'est passionnant. Mille merci pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. C'est toujours passionnant de vous écouter et ça fait voyager et dans le temps et dans notre imagination. Merci Frédéric. Passez une bonne nuit et puis n'hésitez pas à me rappeler un de ces quatre pour
de nouvelles découvertes. Bien sûr.
Hein, d'accord.
Je vous remercie Olivier. Vous saluerez Natacha et Florian.
C'est fait. Ils vous écoutent.
Ainsi que toute l'équipe.
Très bien.
Et je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne continuation. Je ne manquerai pas de vous recontacter en temps voulu.
Exactement. J'attends votre appel. Merci mon cher Frédéric. Bonsoir.
Je vous en prie. Bonne soirée Olivier.
Bonne soirée.